Parlons un peu de la situation aux États-Unis. Il y a cette tentative pour destituer le président américain Donald Trump, président jusqu'au 20 janvier. Une deuxième tentative dans le cas de Trump. Il y en avait eu une autre précédemment qui n'avait pas fonctionné. Il faut dire que ce serait un précédent, c'est le cas de le dire, si ce président était destitué. Il y a déjà eu trois précédents dans l'histoire des États-Unis et il y a eu zéro. Ça n'a jamais marché. On n'a jamais réussi à destituer un président. Est-ce que Trump sera le premier? Est-ce que ça va fonctionner? On va en parler avec deux invités que vous connaissez bien. On les avait joints tous les deux. On en avait fait un duo de choc au mois de décembre. On trouvait que ça fonctionnait bien. Alors, on s'est dit, on les réinvite. Donald Cocciuletta est avec moi. Gilles Duceppe également. Bonjour, Donald, chercheur associé à la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM.
Bonjour, bonjour.
Gilles Duceppe. Bonjour, bonjour Donald. Gilles, bien sûr, ex-chef du Bloc québécois. Bonjour, Gilles Duceppe.
Oui, bonjour, Isabelle. Bonjour, et bonne année.
Bonne année, oui, à tous les deux. On peut encore se le souhaiter. Je veux vous entendre là-dessus, là, sur tout ce processus, peut-être un petit peu de genèse de l'histoire pour ceux qui auraient manqué les derniers commentaires. L'actualité se joue en ce moment, hein, Donald Cocciuletta.
Oh, absolument. Je veux dire, présentement, là, la Chambre des représentants sont dans une période de, ils ont commencé le débat. Puis suite à ce débat-là, sur la mise en place de pourquoi qu'on veut destituer Donald Trump. D'ailleurs, ça a été publié hier pour que tous les membres de la Chambre des représentants et aussi du Sénat, puis la population en général, ça a été publié. Donc, c'est simplement une accusation. C'est surtout une accusation d'avoir fermenté, dirigé, qu'est-ce qui s'est passé mercredi passé devant le Capitole, finalement, avec les partisans de Donald Trump, etc. Donc, ils vont discuter, parler, débattre, et puis ensuite, ils vont prendre le vote. Et par la suite, comme on sait, ça va être envoyé au Sénat. Il faut voir aussi qu'on a commencé ce matin, parce qu'on avait prévu que on espérait que monsieur le vice-président des États-Unis, Mike Pence, puisse accepter ce que Mme Pelosi lui a dit, de demander à M. Trump de démissionner ou du moins utiliser l'article 25, là, pas l'article, mais
le 25e amendement de la Constitution des États-Unis.
Constitution américaine, ouais. Effectivement, où est-ce que le vice-président, avec les membres du cabinet, peuvent effectivement se présenter devant la Chambre des représentants et aussi le Sénat, dire que le président n'est plus apte à gouverner. Et donc, M. Pence a refusé sur les deux questions, deux choses en question. Donc, Mme Pelosi a dit, bon, ben, mercredi, on va procéder au niveau de la décision de Donald Trump pour une tentative de deuxième fois, comme tu le dis, finalement.
Mm-hmm. Et Gilles Duceppe, vous croyez, Gilles, à cette possible destitution du président Trump?
Je pense que le vote va passer, bien évidemment, au Congrès. Il vote vers 3h après-midi. C'était tenté deux fois dans l'histoire. Andrew Jackson, 1885, je pense, puis Clinton en 99. Les deux fois, ça a échoué au Sénat. Et ce qu'il y a de particulier cette fois-ci, c'est que le procès, parce qu'on appelle ça un procès au Sénat, suite au vote de la Chambre des représentants, aura lieu une fois que Trump ne sera plus président. Mm-hmm. Ça, c'est différent des deux autres. Et les conséquences sont différentes aussi, en ce sens qu'on ne peut pas faire en sorte qu'il doive disparaître. Il sera déjà disparu. Il ne sera plus président. Cependant, à ce que je sache, à moi je me trompe, puis Donald me corrigera, ça l'empêchait, si jamais ça passe au Sénat, ça prend 17 votes. Là, on a vu que Mitch McConnell laisse les gens libres de voter. Il y en a au moins 5 aujourd'hui à la Chambre des représentants qui vont appuyer, qui vont voter avec les démocrates. Est-ce qu'il y en aura d'autres? C'est toute une question. Si ça arrivait, je pense que Trump ne pourrait plus être candidat une prochaine élection ou tout poste fédéral, perdrait sa pension et il n'y aurait pas de bibliothèque nommée en son nom.
Mm-hmm.
Maintenant, ça divise énormément les républicains. Et ce qui vient de se passer il y a quelques minutes à Washington est très indicatif, là. Des gens de Trump essayaient de le remettre sur certains réseaux sociaux et c'est son gendre, Jerry Kushner, qui vient de faire échouer les manœuvres. Donc, c'est divisé au sein même de son de ses proches, là. De son inner cabinet. Ça. Et je comprends que ça soit divisé comme ça parce que les républicains ont peur. S'il se colle trop sur Trump, quelles sont les conséquences? S'il ne se colle pas sur Trump, est-ce qu'on verra un Tea Party, un Parrot apparaît comme troisième candidat. Et pensons à la Géorgie, où Kelly Loeffler a perdu il y a un an quand elle a été nommée pour remplacer le sénateur qui était malade. M. Trump avait choisi Collins, qui s'est présenté quand même, a divisé le vote républicain, s'est imposé un deuxième vote et les démocrates ont gagné deux sièges. Donc, les républicains là, sont en fort mauvaise posture actuellement.
Mm-hmm. Oui, Donald, là-dessus?
Bien, ils sont en mauvaise posture parce que ce parti-là est divisé en trois factions présentement. La première faction, je pense qu'on l'a entendu souvent de la bouche de Mitt Romney, c'est que ce qu'on appelle les conservateurs traditionnels qui suivent finalement la Constitution, font le A, B, C, D, on peut dire du conservatisme qui date depuis une centaine d'années, puis 200 ans aux États-Unis. Mm-hmm. La deuxième faction, qui est assez importante aussi, même s'ils sont beaucoup plus des conservateurs, beaucoup plus radicaux en général, comme Mitch McConnell, puis même Lindsey Graham. Mais à un moment donné, quand on arrive vis-à-vis la question de la violence ou la question des manifestations violentes, effectivement, ces gens-là se tassent sur le côté des républicains modérés. Mais la troisième faction, puis là, on l'a vu avec le Ted Cruz. Hein, Ted Cruz continue à défendre Donald Trump. Ted Cruz se base, évidemment, sur 5-6 autres sénateurs au niveau du Sénat, des républicains, évidemment. Et donc, effectivement, il continue cette discours-là, qui est un vieux discours dans lequel M. Ted Cruz était, hein, le Tea Party. Donc, ouais. Finalement, puis il se base, M. Cruz aussi, il faut vous dire, le tremplin, même M. Trump utilise ce tremplin-là, des 73,7 millions qui ont voté pour la réélection de Donald Trump. Et dans ce groupe-là, il y en a plusieurs, je ne sais pas exactement les chiffres, mais ils sont effectivement plusieurs dans les 50 États des États-Unis d'Amérique qui disent que finalement, M. Trump s'est fait voler les élections, c'est la conspiration des démocrates, etc., etc. Puis il y a beaucoup de gens dans ce mouvement-là qui croient encore à ce qu'on appelle une cinquième révolution aux États-Unis. Donc, c'est des mouvements qui existent depuis 20 ans, et donc, ça veut dire ça, c'est rendu même au sein du Parti républicain, qu'on pensait qu'il était plus uni que celui du Parti démocrate, puis là, on voit l'inverse. C'est vraiment les républicains qui sont beaucoup plus divisés que les démocrates.
Mm-hmm. Mais là, une chose qui va faire réfléchir, là, et le geste de Kushner ce matin, ça en dit beaucoup, parce que les gens qui financent le parti se sont retirés. Oui. Alors, ceux qui vont se présenter vont se dire, hop, on va faire avoir de l'argent. Et c'est une question majeure. Et Kushner, la famille Kushner est très liée à l'argent. Trump, on a vu la Banque d'Allemagne.
Oui, il a perdu deux de ses banquiers, Donald Trump.
Mais sauf qu'il doit 300 millions encore.
Ouais.
Et dites-vous bien que l'État de New York, selon moi, n'attend que le jour où il n'est plus président pour porter les accusations et le faire arrêter. Ce gars-là n'a pas grand argent. Il a toujours masqué ses affaires. Et c'est pour ça qu'il voulait aller en Irlande. Et en Irlande, Mme Sturgeon cherchait un moyen de l'empêcher. Elle ne voulait pas le voir là-bas. Et là, elle l'a trouvé. Elle dit que le gold, c'est pas un service essentiel. Donc, tu prends pas l'avion pour t'en venir en Irlande. Mm-hmm. Et Boris Johnson n'a pas répliqué. Il y a personne qui le veut. Poutine n'en a plus besoin. Isolé vraiment.
Les gens l'ont isolé, même ceux qui l'ont soutenu, ceux qui croient comme lui à l'autoritarisme gouvernance, comme Poutine et compagnie, même Boris Johnson. Non, ces gens-là sont pas prêts à mettre en cause leur propre existence politique dans leur pays respectif. Ouais. Et donc, effectivement, ils vont s'éloigner de lui. Mais par contre, la plupart des observateurs aux États-Unis, puis moi, je suis d'accord avec cette position-là, ils disent que finalement, oui, Donald Trump ne sera plus là. Puis finalement, il va être isolé, mais au niveau même, on peut dire, la question économique, la construction commerciale, puis même au niveau de son industrie comme telle, la construction des clubs de golf et des hôtels et des casinos, il va être isolé complètement de ce côté-là.
Et des médias aussi, parce qu'il faut quand même dire que c'est une bête médiatique.
Pas les médias. Fox News a dit clairement, puis c'était même réécrit dans le New York Times, que Fox News va devenir la référence aujourd'hui pour tous ceux qui croient que finalement les États-Unis s'en vont dans une mauvaise direction. Mm-hmm. Ça veut dire qu'ils vont soutenir encore le discours de M. Trump, même s'il n'est plus là.
Puis il y a beaucoup il emmène large et dans les médias, il va rester là.
Oui, absolument. Puis Fox News va faire le travail pour lui. Et l'autre chose aussi, il faut dire, c'est que l'idée du Trumpisme qu'on a qualifié de son idéologie, son autoritarisme, la façon qu'il s'est comporté, etc., beaucoup d'observateurs disent, même sans Donald Trump, ça va continuer.
Oui, et c'est un mouvement qui est présent à travers l'univers. On le voit avec Bolsonaro, On le voit avec le Front national en France, on le voit en Hongrie, on le voit en Pologne, on le voit avec Poutine, c'est des mafieux qui dirigent la Russie. On le voit en Chine. En Chine, c'est la même, sauf qu'ils sont, il y a personne qui peut protester en Chine, on le voit bien. Oui. Ah, et l'histoire est ainsi faite. On a vu que ça s'est produit dans les années 30 avec les résultats désastreux qu'on a connus par la suite. Alors, il faut être très attentif à ça. Puis même au Québec, il y a des têtes folles de ce genre, là.
Absolument, tout à fait raison.
Je prends le site, là, Vigile, là. C'est les Trumpistes au bout. Ça dénonce les musulmans, l'immigration, les juifs.
Oui.
C'est épouvantable.
Et ça déteint sur nous, tout ça. Vous diriez, tous les deux, Donald, par exemple, Gilles vient de dire, là, que même chez nous, il y a des têtes folles, là.
Ouais. C'est plus profond que ça. Ça va juste déteint. Oui, il y a un certain pourcentage, c'est déteint, parce que les gens disent Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump. Mais à l'intérieur du Québec, il ne faut pas oublier l'histoire du Québec. On a déjà eu nos gens d'extrême droite, là, des années 30. Là. On a eu du monde qui se sont promenés dans les rues. Adrien Arcan, là, je veux dire. On a eu quelque chose de local, là, si vous voulez.
Et même Pierre-Éliott Trudeau était dans les mouvements antisémites.
Absolument. Donc, écoutez, là,
on a tout ça,
c'est sûr que c'est ajouté par rapport à ce que Gilles vient d'expliquer, par rapport à l'ensemble du monde aujourd'hui, puis les gens vont sur les sites Internet, puis ils regardent tous ces sites-là à travers le monde, et donc, finalement, ça les mène du côté, finalement, d'être beaucoup plus d'extrême droite.
Ça les conforte.
Absolument. Et ça veut dire qu'à quelque part, même les gens qu'on a vus mercredi passé, qui ont envahi le Capitole, puis finalement armés, hein, ils étaient armés, ces gens-là, là. Et ça veut dire aussi que parmi ces gens-là, il y a des éléments que moi je qualifierais de néo-fascistes. Puis qu'est-ce que Gilles a expliqué tantôt, c'est la montée, il faut le dire, du néo-fascisme un peu partout sur la planète aussi. Ça, c'est l'autre problématique. Donc, finalement, il y a quelque chose qui se passe dans notre monde aujourd'hui, puis ça déteint activement, puis même ça va plus loin que déteint, ça convainc du monde, que ce soit au Canada, au Québec, aux États-Unis, en Amérique latine, un peu partout.
Donc, on est en face de quelque chose
qu'on n'a pas connu dans notre génération, c'est évident.
Je suis en train de lire justement une des pages qui est sortie, là, qui a été publiée, je pense que c'était un petit peu plus tôt aujourd'hui, là, cette nuit. Je ne sais pas si vous connaissez le site Boogaloo. C'est un site anti-gouvernement qui serait basé à Montréal, puis qui fait, en gros, là, je résume, la promotion. Qui ont fait beaucoup la promotion au cours des derniers jours, là, de toutes ces attaques armées aux États-Unis, là, entre autres. Puis ils parlent même de l'inauguration présidentielle, là, comme quoi ça serait une bonne idée d'aller faire du bruit là-bas. Et ce site a été fermé, là, ce matin, semble-t-il.
Il y a Charles Lebois qui ne doit pas être content.
Oui, avec le Boogaloo.
Mais il faut rien avoir les gens. Les gens qui ont manifesté à Washington, ils prévoient de faire des manifestations dans les 50 États le 17 janvier.
Ça, c'est dangereux, très dangereux.
À Washington, ça veut dire qu'ils vont faire ce qu'ils ont fait au Capitole, ils vont le faire dans toutes les capitales de tous les 50 États. Ouais. Ils avaient déjà commencé il y a une couple de semaines. Ils sont allés au au Kansas, puis ils sont allés la semaine d'après au Michigan.
Ben, Michigan, ils ont tenté de kidnapper la gouverneure.
Absolument.
Alors, moi, je pense qu'à Washington, D.C., ça va être... Ça va être sous haute garde, mais dans les 50 États, c'est autre chose. C'est plus produire affaires dans les petits États. Là, les grands États vont être bien équipés pour répondre à ce danger, mais pas nécessairement les États plus petits qui ont moins de moyens.
Ben, je sais pas, le Capitole n'a pas été bien capable de répondre aux dangers. C'était pas, moi, sincèrement, c'était une scène de film. On était ici, on en avait la chair de poule. Restez là tous les deux, on va aller à la pause, bien sûr. C'est très intéressant ce que vous nous racontez. Puis c'est quand même assez historique, là, ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. C'est un long processus, quand même. Gilles Duceppe nous disait, lui, qu'il croyait cette possible destitution de Donald Trump, même si ça se produit sur le tard. Donald Cucciuletta est plus sceptique. On y reviendra, d'ailleurs, sur le processus à Donald. Mais j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que vous croyez que cette deuxième tentative, c'est quand même la deuxième fois qu'on s'essaye à destituer Donald Trump aux États-Unis. Les démocrates qui ont échoué la première fois, le contexte était vraiment très loin d'être pareil. Là, avec les déclarations de Donald Trump, puis encore hier, mais surtout mercredi dernier, cette espèce d'appel assez sans équivoque, sincèrement, si vous l'avez entendu la semaine dernière, c'était pas mal clair. Puis même quand il a dit aux gens de rester calme puis de quitter le Capitole, de faire la paix, sa première phrase, ça a été quand même de dire qu'il avait raison, puis qu'il comprenait pourquoi il était là, puis il comprenait pourquoi il se rebellait. Fait que c'était pas convaincant ben son appel à dire « rentrez chez vous ». Et encore hier, je sais pas si vous l'avez entendu, Donald Trump, mais il continue de dire que ce qu'il a dit la semaine dernière aux Américains, il y avait rien d'épouvantable là-dedans, il y a pas de compte à rendre et que il y a des démocrates qui ont dit bien pire que lui par le passé. Fait que vous voyez, c'est là où on en est. J'aimerais savoir si vous, vous estimez que cette fois-ci, ça se peut que Donald Trump puisse être destitué. Vous me le dites au 514-790-9850 1-866-790-9850. Je suis en compagnie de Donald Cuculeta, chercheur associé à la chaire Raoul Dandurand de l'Université du Québec à Montréal. Gilles Duceppe, ex-chef du Bloc québécois, est avec moi également. On parle de cette deuxième tentative aux États-Unis pour destituer Donald Trump. Est-ce que ça va fonctionner? Je disais tout à l'heure, Gilles nous a fait connaître son opinion. Il croit possible, cette possible destitution, peut-être même si ça se produit sur le tard. Comme ça, ben, au moins Donald Trump pourrait plus avoir le droit de se représenter dans 4 ans. Vous me dites ce que vous en pensez en m'appelant au 514-790-9850, le 1-866-790-9850 pour nous joindre un peu partout au Québec. Je commence avec vous, Pierre. Bonjour.
Bonjour.
On vous
Alors,
écoute?
Mon opinion, c'est que je ne pense pas qu'il va être destitué. Il s'agit d'avoir regardé la série House of Cards. C'est le genre de moineau qui est à Maison-Blanche. Il est sérieusement malade, mais il trouve toujours une façon de s'en sortir. Il y a vraiment du chien.
Oui, donc vous avez l'impression qu'il va se... il va réchapper à tout ce processus.
Il a fait ça toute sa vie.
Oui. Ben merci, merci,
malheureusement.
Pierre. Oui, Francis est avec nous. Bonjour, Francis.
Hey, bonjour, Isabelle. Bonjour à vos deux messieurs avec vous. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il faut vraiment que les autorités américaines trouvent une façon de l'écarter. Parce que s'il revient dans 4 ans, il va avoir 4 ans pour réencenser tous ses supporters. Dans 4 ans, s'il reprend le pouvoir, là, il va faire du dommage. On a déjà eu un dans l'histoire qui avait le même type de pensée et d'agissement que lui, puis on a vu ce que ça a donné. Fait qu'il ne faut pas y redonner le pouvoir de la plus grande, de la nation la plus puissante. On ne sait pas ce qu'il va faire avec ça.
Mais
c'est ce qui m'inquiète.
Ouais. Est-ce que êtes-vous inquiet aussi de ce qui pourrait se passer au cours des prochains jours? Parce que...
Tout à fait. Ça, je suis vraiment inquiet de ce qui va se passer dans les prochains jours. Parce que, étant camionneur, j'ai voyagé souvent aux États-Unis.
Ouais.
C'est un sujet qu'il faut éviter. La religion, la politique, tu ne parles pas de ça avec personne, jamais, parce que tu risques d'avoir des très, très gros problèmes. Tu ne montres pas ton allégeance. Moi, profondément, je suis démocrate dans l'âme. Fait que jamais que tu parles de ça avec qui que ce soit, parce que tu risques de te faire tuer.
Et surtout dans certains États, hein, par exemple la Floride, entre autres, où il y a beaucoup de Québécois. C'est un État qui était... c'est là aussi, dans la région de Palm Beach, où vit Donald Trump, il y a des partisans au pouce carré. Là.
Ah, mais la Georgie, la Louisiane, des bayous profonds sont vraiment pro-Trump, sont républicains. Pour eux, l'immigration, c'est une infamie. Ils se qualifient tous d'American Native.
Ouais.
Dans le fond, c'est tous des immigrés comme tout le monde. Mais ils ne comprennent pas ça.
Oui, tout à fait. Merci beaucoup de votre appel. Et c'est ça qui avait été... Je trouvais ça fascinant mercredi dernier. On était tous rivés à notre téléviseur à voir ces images-là. J'imagine que Donald Cuculeta et Gilles Duceppe aussi ont vu ça. Et je me disais, Donald, mon Dieu, le pire, c'est que ce monde-là, ces gens qui se révoltent, sont convaincus qu'ils le font pour le bien de la nation. Ils se considèrent eux-mêmes des ultra-patriotiques, Donald Cuculeta.
Oui, parce qu'en fonction du fait, de la façon qu'ils voient leur nation, ils voient leur nation surtout comme une nation qui est blanche. Hein? C'est surtout ça. Parce que la base de ces groupes-là, c'est le suprémacisme blanc, le racisme. Racisme même, on peut dire, qui pousse la question du racisme systémique aux États-Unis. Donc, ces gens-là voient les États-Unis, puis disent, on est des patriotes, on défend vraiment la mythologie américaine, les vraies valeurs américaines. Mais quand on définit tout ça, ça veut dire finalement, c'est ceux qui sont de la race blanche. C'est surtout ça. Donc, vous voyez, c'est une continuité du Ku Klux Klan, du Tea Party, etc., etc. Donc, oui, c'est leur vision des États-Unis, mais ce n'est pas nécessairement une vision qui est effectivement qui est rapportée puis qui a été étudiée par les historiens. C'est vraiment, les États-Unis, c'est un pays d'immigrants. C'est l'immigration qui a fondé ce pays-là à différentes époques, à différents moments, etc., etc., etc. Donc, mais pour ces gens-là, c'est pas la question, c'est pas ça. Et ça, ça date depuis la guerre civile. Hein. Faut pas oublier, Ku Klux Klan était fondé dans la période de reconstruction après la guerre civile. Donc, écoutez, puis à un moment donné, il a fait son chemin à partir du sud profond vers le nord. Puis aujourd'hui, dans le nord, le Ku Klux Klan est plus fort qu'il était dans le sud. Donc, vous voyez, ça a changé, la démographie a changé, tout ça. Fait que non, c'est même dans l'État de New York, tout le nord de l'État de New York, où j'ai enseigné pendant 12 ans, finalement, écoutez, c'est blanc, et effectivement, ils sont pro-Trump, sont pro, finalement, le rêve américain, comme ils l'interprètent, et comme ils le pensent. Et donc, c'est partout maintenant, même dans certaines localités de la Californie, qu'on a toujours trouvé libéral, ouvert, il y a des endroits...
Mais
là,
comment ça... Moi, c'est ça que je comprends pas. Comment ça se fait? Tu dis, il y a 73,7 millions d'Américains qui ont voté pour Donald Trump. C'est pas vrai que ceux qui se sont présentés la semaine passée devant le Capitole croient ça. Là. Je veux dire, il y a eux, puis il y a les 73 millions d'autres. Je peux pas croire que ces millions de gens qui ont voté pour lui sont tous prêts à prendre d'assaut la Maison-Blanche. Là.
Écoute, de 2016 à 2020, M. Trump a été cherché 16 millions de plus dans son vote populaire de 2020. 16 millions. Ça veut dire, durant ses 4 ans au pouvoir, avec tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, puis avec toutes les fracasseries et toutes les affaires, finalement, avec son caractère et tout ça, avec son autoritarisme, le non-respect, finalement, du journalisme, le droit de parole et tout ça, il y a quand même 16 millions qui ont voté de plus pour lui. Écoutez, là, ça veut dire, c'est qui, ça? Fait qu'imaginez-vous, si ces 16 millions représentent, ils sont un peu comme on a vu, écoutez, il y a du monde, là. Il y a un tremplin avec lequel il peut travailler. C'est pour ça que la stratégie des démocrates, c'est beaucoup plus loin que la question de la destitution. Mme Pelosi, elle a essayé avec Mike Pence, ça n'a pas fonctionné. Là, on va vers la destitution. Mais la destitution pour les démocrates, c'est aussi une stratégie interne pour démontrer qu'ils sont le seul parti qui défend la démocratie libérale aux États-Unis. Parce que l'analyse qu'ils font, effectivement, puis Mme Pelosi est la première porte-parole de ça, dit que finalement, il a attaqué la démocratie libérale américaine, la grande démocratie américaine. Et donc, c'est pas ça que vous avez des républicains, même sénateurs et républicains à la Chambre, qui vont aller du côté des démocrates, parce qu'eux autres aussi, ils ne veulent pas se faire mettre de côté et dire, vous n'êtes pas des démocrates, vous? Vous croyez pas que la démocrate?
Oui, Liz Cheney, je pense, c'est quand même l'une des chefs de la minorité républicaine à la Chambre, c'est la fille de l'ancien vice-président américain. Elle a dit qu'elle voterait pour la mise en accusation de Donald Trump.
Absolument.
C'est pas rien. Là.
Fait,
mais j'ai Joanne qui m'écrit avec tout ce qui se passe aux États-Unis, avec les Américains, l'Amérique profonde, elle me dit. C'est dangereux pour eux, mais c'est aussi dangereux pour nous. Ce sont nos voisins. Quand ils toussent, on éternue. Il y a danger de guerre civile. Elle, ça l'inquiète, Joanne. Gilles Ducey, vous avez été longtemps politicien. De quelle façon ça peut nous influencer ici politiquement et surtout, peut-être, je devrais dire, économiquement, Gilles?
Oui, bien, économiquement, je ne sais trop, parce que on a vu la réaction des grands dirigeants économiques américains là, qui se distancent de Trump parce qu'ils ne veulent pas en subir les conséquences. Et Biden qui ne serait pas considéré, on parle de socialiste là-bas, il est moins à gauche que la CAQ ici, donc c'est relatif, ça, là. Hein?
Ouais,
c'est très, 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 très relatif.
Ouais.
Ah, mais moi, je pense que la démocratie, tant au Québec qu'au Canada, a des piliers plus forts. Là. D'une part, le financement est bien différent, les médias de communication sont fort différents. Il y a un danger avec les médias sociaux, évidemment, mais l'ensemble de tout ça, je pense, moi, que l'impeachment se fasse ou pas, les démocrates sortent gagnants de ça parce qu'ils divisent les républicains. Et il y a une élection dans 2 ans, là, toute la Chambre des représentants, tous les représentants vont en élection, le tiers des gouverneurs, le tiers des sénateurs. Faut pas oublier ça, là. D'autre part, j'apportais une nuance à ce que Donald disait quand il parlait du Ku Klux Klan, c'était avant tout anti-noir, mais c'était pas seulement ça. Il y a eu du Ku Klux Klan dans le Maine, des manifestations Portland, Maine, jusque dans les années 60, contre le Catholic French Canadian.
Oui, absolument.
Et la première fois que le Ku Klux Klan, le KKK, est interdit de manifester, c'est sur le pont entre Saco et Biddeford. Il y a un monument là, d'ailleurs. parce qu'ils voulaient protester contre la présence des French Canadians qui étaient immigrés depuis 1880. Mm. Il y avait 1 million qui étaient partis là. On voit les écoles, c'est marqué École School là-bas. Ouais. Or, le KKK est arrivé sur le pont, puis leur plus grand malheur, les policiers de Biddeford étaient tous those Catholic French Canadians. Ils ont interdit de manifester. C'est une première dans l'histoire américaine. Mm. Donc, c'est tout ce qui n'est pas semblable à moi est dangereux. Ouais, c'est ça le mouvement. Ouais.
J'ai Qatar qui m'écrit, à quoi ça va servir, dans le fond, de le destituer à 7 jours de la fin de son mandat? De toute façon, même s'il représente pas, s'il se représente pas dans 4 ans, il pourrait envoyer sa fille ou son fils, surtout sa fille, là, dont il a la plus grande estime, pour se présenter à sa place, puis ce sera lui qui sera derrière, qui manipulera. Évidemment, bon, nos auditeurs font toutes sortes d'hypothèses, là, mais est-ce que finalement, là, ça va servir à quelque chose si ça arrive? Moi, je détesterais pas l'idée qu'il puisse plus se représenter, puis qu'il serait, il pourrait même, tous les présidents se font appeler Monsieur, Mr. President après, jusqu'à ce qu'il meure, hein. Ça lui enlèverait sans doute ce droit, Donald Coccioletta aussi. Il y a quand même aussi un principe là, de fait de dire, regarde, tu ne peux pas être président puis faire n'importe quoi non plus.
Oui, absolument. Je pense qu'il faut dire aussi que c'est pour ça que les démocrates, les républicains sont de plus en plus du côté des démocrates. Peut-être pas la grande majorité, mais on voit les individus de plus en plus changer un peu leur position sur Donald Trump, qu'ils l'ont subi pendant quatre ans, il faut le dire. Hein, au début, les républicains n'étaient pas nécessairement d'amour avec lui, mais quand ils ont vu qu'ils pouvaient les amener au pouvoir de la présidence, là, ils ont décidé de le soutenir. Mais les républicains, aujourd'hui, ne laisseraient pas Donald Trump jamais revenir. Ça, c'est clair. Pour moi, il est barré au Parti républicain. Mmh. Et donc, écoutez, là, s'il n'y a pas eu de destitution contre lui, ça veut dire automatiquement, il pourra à un moment donné se présenter comme indépendant. Mais dans l'histoire américaine, finalement, il n'y a jamais un indépendant qui s'est présenté puis gagné la présidence des États-Unis, parce qu'on sait, depuis le début du 20e siècle, c'est les deux partis en place, républicains et démocrates, via les primaires, qui contrôlent tout le processus électoral et aussi le processus de gouvernance aux États-Unis.
Et la carte électorale aussi.
Oui, exactement. Ils changent comme ils veulent, selon, finalement, s'ils veulent gagner tel district fédéral, comment qu'on peut bouger le vote d'un bord et de l'autre, dépendant de qui gouverne l'État, que ce soit un républicain ou un démocrate, le fameux gerrymandering. Ouais. Donc, tout ça est contrôlé. Ça veut dire que les républicains ne veulent plus rien savoir. Ils peuvent tous se présenter comme indépendants, mais moi, qu'est-ce que je trouve qui est encore plus dangereux?
Oui, puis on va conclure là-dessus.
C'est qu'effectivement, avec l'argent qu'il y a, même si on peut dire que c'est de l'argent emprunté, puis il doit de l'argent, mais il y a toujours un peu d'argent, M. Trump, de commencer à faire des discours à travers les États-Unis, des grandes foules, etc. Il adore ça, d'ailleurs. Puis effectivement, ceux qui ont voté pour lui et tous ceux qui sont prêts à se battre pour lui, comme on a vu au mercredi passé, vont continuer à le soutenir et le suivre. C'est pour ça que je me dis, il y a quelque chose de backlash qui peut arriver avec la distinction, c'est ça peut jouer contre les démocrates, parce qu'on commence à faire de lui un icône pour ces gens-là, un héros pour ces gens-là. Fait que moi, c'est pas clair pour moi dans tout ça.
Ouais. Tu penses pas qu'il va être destitué, Donald? Hein?
Moi, je pense pas non plus.
Ouais,
moi, je capte pas ça, mais les démocrates jouent la bonne carte en divisant les républicains. D'autre part, je suis pas sûr qu'il va pouvoir se promener à travers les États-Unis. Parce que le gouverneur Cuomo, dans l'État de New York, entre autres, et d'autres ailleurs, l'attendent.
Ouais.
Et je suis pas sûr, moi, qu'il n'y a pas des... C'est-à-dire, je suis pas mal sûr que les accusations vont le déposer. Il ne peut pas se pardonner de ça parce que ça vient d'un État. Et ça serait intéressant qu'il passe de la White House au Jailhouse.
On va suivre ça, messieurs. Merci beaucoup de nous avoir allumés avec cette discussion. Ça se passe en ce moment, puis bien sûr... On va poursuivre sur le sujet au cours des prochains jours parce que ça va occuper beaucoup les Américains, mais comme nous sommes les voisins, ça va nous occuper, nous aussi, de voir ce qui va se passer chez eux et quel sera le résultat donc de ce processus de destitution. Merci, Donald Coccioletta. Merci beaucoup, Gilles Duceppe.
Merci, au revoir.
Tout de suite après la pause, on va changer de sujet, vous allez être content, hein? Alors, je la COVID, tant mieux. On va parler du Canadien. Ça repart, le hockey. Êtes-vous contents, les amis? Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce que ça va nous faire du bien, le retour du Canadien puis du hockey? Nous, on va diffuser sur nos ondes, bien sûr, dès ce soir. Ça va se passer à Toronto. On en parle avec Martin McGuire et Philippe Quentin tout de suite après.